France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
L'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar marque le début d'une nouvelle ère dans le football mondial. C'est une candidature qui a pour seule vertu l'argent que peut injecter le Qatar dans le circuit du football, pour ne pas dire dans les poches de ses instances dirigeantes. Le Qatar n'est absolument pas une nation de football. 112e équipe au classement FIFA en 2010, à l'annonce de l'attribution de la Coupe du Monde, c'est une équipe qui n'a jamais réussi à se qualifier pour une phase finale. Le Qatar ne possède pas non plus les infrastructures nécessaires pour accueillir un tel événement. Une dizaine de nouveaux stades sont construits par des travailleurs étrangers esclavagisés, qui meurent par milliers sur des chantiers bien loin de toute norme de sécurité ou d'hygiène. De plus, au vu des prix exorbitants des hôtels et du respect quasi nul du droit des hommes et des femmes, très peu de supporters se voient enclins à faire le déplacement. À l'instar de la Coupe du Monde de handball tenue au Qatar en 2015, les stades seront sans doute peuplés de faux supporters, payés par le régime qatari. Pourtant, en dépit du bon sens, aucune fédération nationale n'a appelé au boycott de cette Coupe du Monde, et très peu de grandes figures du football se sont insurgées contre cette absurdité. Au contraire, d'anciens grands joueurs comme Zinedine Zidane, Michel Platini ou encore David Beckham sont payés à coups de millions pour soutenir publiquement le projet de l'État qatari. Une véritable mascarade donc, mais qui ne peut surprendre celles et ceux qui suivent le football. L'émergence de ces nouveaux protagonistes aux poches infiniment profondes dans le football mondial prédate cette Coupe du Monde. Le rachat du club anglais de Manchester City par un fonds d'investissement d'Abu Dhabi, suivi de celui du Paris Saint-Germain en 2011 par le Qatar Sport Investment, en sont des exemples éclatants. Ce numéro de Culture Monde de Florian Delorme, diffusé pour la première fois le 1er février 2012, revient sur les nouveaux pays du football, dont l'Inde, le Qatar et la Chine, avec Frédéric Bolotny et Eliane Delatour. L'occasion pour les auditrices et les auditeurs de parcourir un paysage footballistique profondément mêlé aux enjeux géopolitiques et économiques globaux, dans une industrie toujours plus loin du jeu et de l'humain. Les nouveaux pays du foot, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的
某Bollywood star के कपड़ों की लोट चेरिंग की बात कर रहे हैं.
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, cette émission que vous retrouvez sur France Culture tous les jours, entre 11h et 11h50. Vous y retrouverez la chronique frontière d'Alexis Pertov-Steff, ce sera tout à l'heure en milieu d'émission. On continue donc notre semaine autour du football, le tour du monde en ballon. Aujourd'hui, Inde, Qatar, Chine, les nouveaux pays du foot. Ce week-end, dans un entretien au Monde, Michel Platini, ancienne gloire du foot français, patron de l'UEFA, l'instance européenne de football, s'inquiétait de la santé du foot européen, dont les pertes cumulées s'élèvent à 1,6 milliard d'euros à la fin de l'exercice 2010. Les dettes atteignent même 8,4 milliards. La situation est alarmante, disait-il. Nous devons mettre en place un fair-play financier. Les clubs, les ligues, les fédérations nous demandent d'agir. Il faut sauver le football, confiait-il. Pendant ce temps, en Inde, lundi dernier, des sociétés privées s'offraient le service d'anciennes stars internationales lors d'une vente aux enchères. L'Argentin Hernan Crespo pour 840 000 dollars, l'Italien Fabio Cannavaro pour 830 000 dollars, le Français Robert Pires pour 800 000 dollars joueront dans la toute nouvelle Indian Premier League, une ligue fermée de 5 équipes qui se déroulera sur 7 semaines. La Chine aussi sait s'y prendre pour attirer d'anciens champions. Il y a quelques semaines, le club de Shanghai Shenhua a fait venir Nicolas Anelka grâce à un contrat de 2 ans pour un salaire annuel d'environ 12 millions d'euros, s'il vous plaît, c'est-à-dire le double de ce qu'il gagnait à peu près dans son ancien club londonien de Chelsea. Et puis du côté du Qatar, évidemment aussi, on cherche à pénétrer le secteur du foot. C'est fait d'ailleurs déjà. Fait. Un fonds d'investissement qatari a racheté le club évidemment du Paris Saint-Germain, tout le monde le sait. Al Jazeera Sport, cette chaîne qatari, s'est payé récemment les droits pour 8 des 10 rencontres de chaque journée de Ligue 1 pour la saison prochaine. Le Qatar a même réussi une performance exceptionnelle, incroyable.
Expect Amazing, attendez-vous à l'incroyable. Le Qatar est candidat à l'organisation de la Coupe du Monde 2022 et pour l'obtenir, le petit pays des Émirats est prêt à toutes les folies. Baie de Doha, ici sur la lagune, pourrait émerger l'un des plus beaux stades du projet, le Doha Port Stadium, accessible de toute la péninsule, en bateau-taxi. 12 stades donc, entièrement climatisés, pour un pari fou, chiffré à 4 milliards de dollars, et qui pourrait s'avérer très juteux pour la FIFA, dans une région qui comptera en 2022 quelques 500 millions d'habitants, dont la moitié aura moins de 25 ans.
Le vainqueur qui organisera la Coupe du Monde 2022 est le Qatar.
De toute façon, je vote et les autres pensent que je suis corrompu. Voilà. Et tout le monde pense ça. De toute façon, c'est comme ça, parce qu'il y a tellement d'argent. Donc il y a beaucoup de compagnies dans le monde qui sont intéressées et qui viennent éventuellement proposer à des gens pour voter pour eux. Il faut être très honnête pour pouvoir résister aux appels de tout le monde.
Voilà, montage réalisé par Doria Zénine à partir d'extraits de reportages, notamment diffusés sur TF1, sur France 24. Le Qatar a donc obtenu cette Coupe du Monde de football pour 2022. Certains y ont vu le triomphe de l'argent sur le sport. En tout cas, pas mal pour un petit pays de moins de 2 millions d'habitants qui ne joue quasiment pas au football. On parle de ces nouveaux pays du foot, l'Inde, le Qatar, la Chine, avec vous notamment Frédéric Bolotny. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste du sport, vous êtes auteur de plusieurs rapports sur l'économie du football, les clubs de football, le sponsoring sportif, exploitation des stades, les jeux d'argent en ligne, voilà un certain nombre de rapports auxquels vous avez participé. On retrouvera tout à l'heure Eliane Delatour, on parlera avec elle du football en Inde, elle est auteure d'un article Joueurs mondiaux, clubs locaux, le football d'Afrique en Asie, et puis on retrouvera aussi Rowan Simons qui est un journaliste présentateur sur une chaîne de télé chinoise et qui est à la tête d'un club de football chinois. Il a eu un petit peu de mal à la montée, on verra ça tout à l'heure, il sort un livre là dans quelques semaines que je vous conseille d'ailleurs, Frédéric Bolotny, Des bambous dans la surface de réparation, ça sera dans quelques semaines, très bientôt maintenant aux éditions Interval. Sur ce Qatar, Frédéric Bolotny, on va commencer sur ce gros dossier. D'abord, voilà, il vous a pas échappé, on pouvait pas ne pas parler de ce Qatar 2022, cette Coupe du Monde en 2022. Comment vous comprenez au fond que la FIFA ait donné l'organisation de cette Coupe du Monde au Qatar? C'est clairement la corruption qui a joué à plein, disons-le franchement, Frédéric Bolotny.
La corruption, je sais pas, il est évident que si on avait un doute sur le fait que le sport mondial soit à vendre, ça nous le démontre encore une fois. Il y a pas mal de débats sur l'attribution de la Coupe du Monde précédente aussi à la Russie, hein, même si là elle paraît plus légitime en termes, j'allais dire, football, histoire football et quasi géopolitique. Donc, je suis pas derrière pour savoir s'il y a eu de la corruption ou pas. On sait très bien qu'il y a des faits. On est sur un problème de gouvernance, on va commencer par ça, de ces institutions supranationales qui sont hors de contrôle. Hein, qu'on parle du CIO ou qu'on parle de la FIFA, voilà, elles ne sont pas contrôlées. Hein, on est sur des organisations supranationales qui détiennent des actifs très très précieux, hein, les Jeux Olympiques d'un côté, la Coupe du Monde de l'autre, donc qui leur donnent un poids politique et économique très fort et qui malheureusement sont constituées d'assemblées représentant soit les différentes fédérations nationales d'un côté, soit les différents comités nationaux olympiques ou fédérations internationales pour le CIO. Et on est sur un problème de gouvernance, tout bêtement. À savoir que les gens qui votent, on fait des dossiers techniques en amont. On évalue par exemple, c'était le cas pour Paris 2012, parlons des Jeux aussi. Mmh. On évalue la qualité des installations techniques, la qualité de durabilité du projet dans le temps, l'héritage qui va être laissé, beaucoup de choses. On évalue beaucoup de choses. Paris 2012, par exemple, avait de loin le meilleur dossier devant Londres. Mais sauf que les gens qui votent ensuite, votent pour deux raisons, pour d'autres raisons. Soit au mieux, ils vont voter pour défendre leur discipline, leur pays, on parle souvent d'échange de voix sans qu'il y ait obligatoirement de malversation, soit au pire, ils vont voter pour des raisons individuelles, jusqu'aux affaires de corruption qu'on a connues sur les Jeux Olympiques. Donc, en l'état, moi, j'ai pas la démonstration que l'organe directeur de la FIFA qui accordait la Coupe du Monde au Qatar ait été corrompu, j'en suis même pas sûr. Mais je trouve que cette désignation est illégitime. Et maintenant, le Qatar cherche à gagner sa légitimité sur le marché du football.
Et ben alors, justement, intéressons-nous au Qatar qui a pas, il faut le dire, pas du tout de tradition du football. On l'a dit, il cherche à investir. En tout cas, il investit très clairement dans une politique sportive très forte avec le rachat du PSG par ce fonds d'investissement qatari, Qatar Sport Investment, par cette Coupe du Monde. En gros, là, les Qataris sont en train de développer une politique qui doit leur permettre de transformer des pétrodollars en matchs de foot, quoi. C'est quoi la stratégie pour le faire?
C'est une stratégie marketing. Voilà. D'autres parlent de diplomatie sportive, hein, ce qui est tout à fait juste aussi, hein, par rapport à... Mais pour un petit pays comme celui-là, le sport professionnel n'est pas un secteur économique qui pèse tant que ça, malgré l'impression de tout fric, on y reviendra peut-être, mais à l'échelle industrielle mondiale, ça ne pèse pas grand-chose économiquement. Par contre, c'est un média, un porte-voix au plan international sans équivalent. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'autres médias, avec tous les guillemets qu'on peut mettre, mais vecteurs de communication qui vous permettent, qui soient universels, comme le football, comme le sport, et qui vous permettent d'un coup d'un seul, quand vous êtes un pays d'un million, 500 000, 2 millions d'habitants, d'exister, de prendre un véritable statut aux yeux de la planète. Donc, le Qatar joue de cette carte du développement sportif, de la communication politique sportive depuis déjà des années. Hein, ça commence pas avec la Coupe du Monde 2022. Le point d'orgue, le fait d'armes de cette stratégie, c'est bien évidemment d'obtenir cette Coupe du Monde, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire pour eux. Est-ce légitime ou pas, on le verra. Et maintenant, ils ont 10 ans pour gagner une légitimité. On parle de marketing, donc en marketing, il faut être légitime pour montrer à la face du monde qu'ils sont légitime dans le football.
Donc, mais ça ils sont légitimes dans le football. Est-ce que c'est ça la finalité de la chose? Parce que vous dites deux choses qui sont probablement deux réalités qui coexistent. C'est que d'un côté, il y a des questions de marketing et d'économie. On cherche aussi à faire de l'argent. Puis vous parlez aussi de diplomatie sportive, ce qui est pas tout à fait la même chose. Ou alors, peut-être qu'au fond, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on crée des liens avec d'autres pays dans l'optique, in fine, de faire des affaires, ce qui peut-être, évidemment, revient au même. Mais en gros, la finalité, c'est quoi? Est-ce que c'est réellement de se faire un nom dans le monde du foot? Ou est-ce que c'est se faire une place dans le concert des nations via ce domaine-là, qui est un domaine essentiel? C'est les deux.
Ça sort très clairement du seul football. La stratégie sort très clairement du saut de football. Il faut prendre le sport aujourd'hui comme un média, hein, qui est une Coupe du Monde, c'est couvert dans le monde entier. Et c'est aussi la possibilité pour un pays de démontrer un savoir-faire, d'exister. Pendant un mois, pendant la durée de la Coupe du Monde de football, le Qatar va être le centre de la planète en 2022. Ce qu'il n'aurait pas pu être par tout autre biais, par toute autre campagne de communication. Et en plus... Même s'il y a une, c'est pour ça qu'il est important qu'il devienne légitime sur ce marché-là. Il a 10 ans pour gagner cette légitimité. Donc, pour être légitime, il s'affiche sur le maillot de Barcelone. Il faut rappeler que la fondation du Qatar constitue le plus gros contrat de partenariat européen avec 30 millions d'euros par an en étant présente sur le maillot de Barcelone, avec un deal avec l'UNICEF. Vous voyez, quand on parle de légitimité, et c'est le premier sponsor historiquement qui soit apparu sur le maillot de la meilleure équipe du monde actuelle.
N'avait pas de sponsor.
Non, c'était une politique clean. Il a eu l'UNICEF après, mais c'était autre chose qu'un sponsor pendant 2 ans. Donc le premier investissement, ça a été celui-là.
Et le deuxième investissement. Comment ça se fait que le club de Barcelone a accepté de mettre ce sponsor sur son maillot?
Vous savez, en ce moment, 30 millions d'euros, ça se refuse pas obligatoirement comme ça.
C'est-à-dire qu'on est... Il a toujours refusé.
Oui, peut-être que la stratégie a été modifiée. C'est-à-dire que cette stratégie d'avoir des maillots complètement clean, c'est une stratégie d'image. On est aussi sur du marketing. C'est par exemple les stratégies qu'emploient les grandes franchises américaines. En NBA et tout, on n'a pas de pub sur les maillots, hein, pour ensuite faire du merchandising. C'est plus facile de vendre des maillots s'il n'y a pas de pub dessus, a priori. Ils ont changé leur fusil d'épaule parce que certainement ils préféraient prendre les 30 millions d'euros annuels plutôt que continuer à avoir l'UNICEF sur le maillot et leur reverser 1 ou 2 millions par an. Voilà.
Quelle est la rationalité économique de tous ces investissements qatari, Frédéric Bolotny?
Il y a une rationalité, j'allais dire, économico-politique. Hein, on l'a bien vu, le but c'est d'exister dans le concert des nations, vous l'avez dit, ça c'est véritablement le but. Ensuite il y a les investissements auxquels on arrive bien évidemment dans le PSG, où il y a une forme malgré tout de complémentarité. On sait très bien qu'il y a des incointances entre l'État français et le Qatar, donc c'est pas un hasard que ça se passe en France, mais cet investissement dans le PSG, et c'est relativement rassurant, à mon avis participe aussi à la recherche de légitimité. Donc je pense que les Qataris ou les Qatariens vont vouloir construire un club, et pas seulement à coup de millions d'euros. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place des structures, va se poser la question du stade, va se poser la question de la formation, va se poser la question du centre d'entraînement, qui risque d'être durable. Moi, c'est ce qui me rassure en tant qu'observateur du football français international. Donc il y a une rationalité malgré tout, donc politique, c'est-à-dire que l'investissement PSG est cohérent par rapport à la Coupe du Monde. Il y a aussi, malgré tout, une forme d'intégration verticale économique là qui est en train de se mettre en œuvre, avec, ça ne vous a pas échappé, l'arrivée d'Al Jazeera qui fait beaucoup de bruit dans le Landerneau sportif français. Donc là, c'est concrètement, j'intègre toutes les étapes de la fabrication du football spectacle. Le football, c'est avant tout un spectacle télévisuel. Hein. La valeur principale du foot, elle est à la télé, elle n'est pas dans les stades pour l'instant. Hein. Et ensuite, bah, il va y avoir la question des stades et tout. Donc, on a une forme de rationalité qu'on ne trouve pas chez certains autres investisseurs, notamment dans le foot anglais, comme Abramovich à Chelsea, dont on a beaucoup parlé, ou le Cheikh Mansour à Manchester City, qui là, balance des millions sans qu'on comprenne pourquoi.
Frédéric Bolotny, ce Qatar-là, très bien, il fait ça en France, il investit aussi la sphère footballistique du côté de l'Espagne. Qu'est-ce qu'il fait chez lui? Parce qu'il va la jouer, cette Coupe du Monde de football, pour l'instant. On est à la 113e place du classement mondial, je crois. Est-ce qu'il a une stratégie de développement, de formation de joueurs dans son propre pays, sur son propre territoire? Ou est-ce qu'en gros, il va miser sur la naturalisation de joueurs étrangers? On va parler demain de traite des joueurs. Est-ce qu'il y a aussi une stratégie sportive du côté du Qatar?
Oui, il y a eu. Je crois qu'il s'essaye aussi, comme vous le dites, à la naturalisation de joueurs, mais qui pose aussi des fois des problèmes. Il n'y a pas que des joueurs de foot. Hein. On a vu des athlètes. Alors, je ne vais plus me rappeler exactement desquels et de quelle nationalité ils sont originaires, mais... Kenyans, des coureurs kenyans, naturalisés par le Qatar ou d'autres émirats. Mais quelque part, je crois que là, on a passé un degré quand même sur la stratégie. C'est-à-dire que je pense qu'il est plus facile de véritablement montrer à la planète combien on est puissant en obtenant l'organisation de grands événements et en le faisant avec talent et en faisant des beaux événements. Cette démonstration de savoir-faire, rappelez-vous les JO de Pékin, on était en plein là-dedans, hein, cette démonstration de puissance, industrielle, ça c'est lourd à organiser. C'est plus facile, à mon avis, de gagner une vraie crédibilité quasi-industrielle en organisant des événements aujourd'hui, plutôt qu'en constituant des équipes à coup de naturalisation ou en mettant en place des filières de formation qui vont prendre des années, surtout sur la base d'un million et demi d'habitants.
J'entends bien, mais il faudra bien avoir une équipe au moment de cette Coupe du Monde. Ils vont la jouer, les Qataris. Il y aura qui sur le terrain? Des gens naturalisés? Des Africains qui, avant d'arriver soit en Europe, soit en Asie, passent justement par le Qatar, avec peut-être des centres de formation. C'est ça, concrètement, qu'on aura en 2022?
Les résultats de l'équipe du Qatar, du moment qu'elle n'est pas ridicule, seront moins importants que la qualité de l'organisation, pour moi. Voilà. C'est pas neutre, mais contrairement à la Chine, dont on parlera ensuite, leur cible, c'est pas le marché intérieur. D'accord. Leur cible, c'est le monde entier. La Chine, c'est un peu le monde entier, mais c'est aussi beaucoup son marché intérieur. Mais bon, c'est pas tout à fait le même marché intérieur non plus. Donc oui, va falloir qu'ils fassent la maille, donc ça veut dire former des joueurs, ça veut dire former des joueurs à l'étranger, ça veut dire ne pas faire que naturaliser des joueurs, mais ils vont pas gagner la Coupe du Monde chez eux, faut pas rêver non plus. Hein.
Oui, non, faut pas rêver. Frédéric Bolotny, avant de partir du côté de l'Inde et de la Chine, sur la question des droits télé, Al Jazeera, je le disais dans mon introduction, a investi aussi ce marché du foot, cette retransmission, les matchs de Ligue 1, je crois que 8 sur 10 seront retransmis l'année prochaine sur cette chaîne. J'y connais vraiment pas grand-chose, Frédéric Bolotny, j'aimerais que vous nous éclairiez un petit peu sur, au fond, la stratégie d'Al Jazeera et sur qu'est-ce que le foot français et européen en général a à gagner ou à perdre dans ces acquisitions de matchs.
Le marché français est déjà particulier. Il y a eu une concurrence sur ce marché. Déjà, première chose, pour financer des championnats, sur les droits franco-français, on parle de 668 millions d'euros pour la Ligue 1 actuellement. Hein. On était à 465 pour Canal et 203 pour Orange. Bon, on sait bien, Orange se retire du marché. Sa stratégie d'acquisition de contenu a été un échec. Ça n'a pas marché. Hein. L'objectif, c'était d'avoir des contenus discriminants pour vendre du triple play derrière l'abonnement téléphone. Internet, télévision. Ça n'a pas marché. Hein. C'était une stratégie de Canal plus. Hein. Canal avait le football. Le football est le meilleur produit d'appel qu'il puisse y avoir pour la télévision payante, il faut le savoir quand même. Hein. Parce que déjà, le football est vendu de manière monopolistique. Donc si vous l'avez, les petits copains n'ont pas les mêmes lots que vous. Et donc le marché de la télévision payante s'est structuré sur les achats du droit du foot ou d'autres sports partout dans le monde. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des programmes attractifs pour vendre derrière de l'abonnement. Et c'est vrai que l'arrivée d'Al Jazeera s'intègre un peu dans cette mouvance-là. Elle recrée une concurrence. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour les détenteurs de droits, que ça soit la Ligue au niveau la Ligue de foot au niveau national ou l'UEFA. On va en parler, je pense, au niveau européen. Elle recrée une concurrence sur le marché de la télévision payante. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'effet pervers, on le voit, c'est que la Ligue des Champions ne sera plus en clair. Al Jazeera s'est aussi positionné sur les achats de la Ligue des Champions, sur l'achat de la Ligue des Champions. Donc le meilleur match sera sur Canal et tous les autres matchs seront sur Al Jazeera. Donc on ne verra plus en France un seul match sur la télé gratuite de Ligue des Champions, en dehors de la finale, qui est un événement protégé. Donc le problème, il est là.
Toujours avec Frédéric Bolotny sur ces nouveaux pays du foot, l'Inde, le Qatar, la Chine. On parle depuis tout à l'heure du Qatar. On va aller du côté de l'Inde.
देख ले दुनिया देखे जमाना बड़े का भारी सामने आना हम तो है सिद्धि नहीं रुकेंगे हिम्मत भी है ताकत भी है और जीत की चाहत भी है टकराओगे तो मिट जाओगे के हम लोग हैं दीवाने.
Et comme Frédéric Bolotny est un fan de football indien, il sait que ça c'est une chanson à la gloire de l'équipe indienne de football, alors qu'elle n'est pas très très bien classée, là encore au classement FIFA, 158e, jamais qualifié en Coupe du Monde. Mais j'ai vu, tiens, premier match officiel joué par l'Inde, c'est juillet 48 contre la France. Frédéric Bolotny, je ne sais pas si vous le saviez.
Vous que je vous donne le résultat, c'est ça?
Allez-y.
6-0 pour la France.
2-1 pour la France.
Je vous l'avais dit.
Eliane Delatour, anthropologue au CNRS et cinéaste, auteur de Joueurs mondiaux, clubs locaux, le football d'Afrique en Asie. Vous êtes intéressé, Eliane Delatour, au parcours et au transfert des joueurs de l'Afrique à l'Asie, en particulier de la Côte d'Ivoire à l'Inde. Et contrairement à ce qu'on se pense, le football était plutôt bien implanté en Inde avant, en tout cas mieux que chez ses autres voisins asiatiques comme le Japon ou la Chine qui l'ont largement dépassé depuis, mais évidemment difficile de rivaliser en Inde avec le cricket. En tout cas, pour améliorer le niveau du football indien, une loi a permis dans les années 90 d'incorporer 3 joueurs étrangers. D'où viennent, Eliane Delatour, ces joueurs? Sont des joueurs qui viennent d'Afrique essentiellement?
Oui, ils viennent d'Afrique. Les transferts en Inde se font avec des contrats particuliers. C'est-à-dire, ce sont des contrats, l'Inde donne des contrats à court terme, ne donne pas des contrats à long terme. Alors, ça, c'est en train de changer parce qu'ils essayent de se mettre dans les règles de la FIFA et ils amènent à transformer aussi leurs clubs, les mettre aux normes. Et on est dans une espèce de passage où le cricket est le sport qui a porté l'Inde au nirvana et c'est moins le cas maintenant. Ils ont perdu plusieurs coupes, donc l'État semble vouloir se désengager. Et à l'inverse, le foot en Inde, qui est purement privé, l'État s'y intéresse absolument pas parce que la classe moyenne indienne, qui est très 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 importante, quand elle fait faire du sport à son fils, c'est évidemment du cricket, parce que les grandes stars qui monopolisent les médias là-bas, toutes les chaînes de télévision, les grands écrans, etc., ce sont les stars du cricket. Mais le fait qu'il y ait des contrats courts, où on doit rentabiliser un joueur immédiat, ça donne un certain nombre de contraintes sur le joueur qu'on achète. Vous comprenez, on peut pas avoir des grands footballeurs de l'Europe avec des contrats comme ça. Et cette rentabilité immédiate vient de cette concurrence avec le cricket qui très probablement va changer. Et donc, ils vont chercher des footballeurs en Afrique, particulièrement évidemment dans les pays anglophones à cause de la langue pour se comprendre. Et comme ça n'est pas un sport qui est organisé par l'État, mais par des privés, et chaque ville a son mode d'organisation privée, ça commence par des relations. Et les premières relations qui ont pu se construire, se constituer, c'est avec le Nigeria. Et Nigeria de l'Est, des Nigérians catholiques de l'Est. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, petit à petit, ces joueurs ont vieilli, sont devenus des coachs qui ont même entraîné leurs propres joueurs. Donc il y a comme ça une veine du Nigeria qui est arrivée en Inde. Et puis ils ont commencé à élargir au Kenya et puis ensuite à des joueurs d'Afrique de l'Ouest, comme quelques-uns ivoiriens, ça commence, parce que la Côte d'Ivoire, maintenant, à force de gagner des CAN et avoir Didier Drogba, commence à, évidemment, être sur une scène qui attire. Et il y a des gens du Sénégal et du Cameroun aussi.
Voilà. Eliane Delatour, quelle est l'image de ces joueurs africains dans leur club en Inde? Mais peut-être plus globalement aussi dans le reste de la société. Comment est-ce qu'on les perçoit?
Alors, dans leur club, évidemment, on les perçoit comme grands champions, puisqu'ils viennent là pour faire gagner le club, et à toute vitesse en plus, ce que j'expliquais avec les contrats des 3 mois. Il faut qu'ils rapportent des coupes immédiatement, il faut qu'ils butent. Si un Africain ne bute pas lors d'un match, c'est une catastrophe. Et donc, ils sont soit des dieux, soit des parias. Ils sont des dieux quand ils arrivent à mettre des buts 2-3 fois comme ça. Et puis si jamais ils ne remplissent pas ce contrat qu'on attend d'eux, d'être des surhommes du foot, à ce moment-là, ils deviennent des parias. Et pourquoi on est allé chercher ces types-là là-bas? Pourquoi? Et on les paye plus cher que les Indiens, etc. Leur salaire, leurs conditions de vie, ils ont voilà des voitures, des motocyclettes, ça dépend des villes. Et ils sont dans un système qui doit être extrêmement difficile à vivre, à mon avis. C'est d'être tout le temps dans un système de yo-yo avec les médias. Alors, il y a des villes en Inde où, il y a une tradition du foot qui est très, très ancienne. C'est Calcutta. C'est là que le foot, que les Anglais ont apporté le foot. C'est la première ville de foot. Et les Bengalis ont été toujours foot, contrairement à tout le reste de l'Inde. Et donc là, la relation, si vous voulez, est plus normale, disons, encore qu'elle soit très très dure. Et puis il y a Goa, avec les Portugais, pareil, qui ont apporté le foot là-bas, pareil, à la même période, la colonisation. Et ça, c'est des villes où il y a... Mais le reste, c'est comme un loto, il faut qu'on prend des billes, il faut que ça rapporte tout de suite. Quoi. Voilà. C'est un peu ça. Mais c'est en train de changer, ce que je dis est en train de changer, je pense très vite, parce que maintenant, il y a des clubs à Bombay, qui sont en train de se mettre aux normes, qui essayent de donner du temps à leurs équipes, ce qui veut dire qu'ils achètent des joueurs pour 2 ans, 3 ans, essayent de souder une équipe au lieu d'attendre tout d'un homme. C'est sûrement en train de changer très vite. Et puis je pense que l'Inde change très vite.
Est-ce qu'on voit, Eliane de la Tour, un résultat sur l'engouement pour le sport, alors pas forcément pratiqué sur le terrain, mais par exemple à la télévision, est-ce que les Indiens regardent de plus en plus de foot à la télévision? Et est-ce que, voilà, tous ces efforts pour développer le football indien, est-ce qu'il se traduit dans la société indienne?
Pas du tout. Et c'est ça le gros problème des privés qui continuent à investir dans ce projet footballistique en se disant qu'un jour, c'est obligé que ça arrive étant donné l'impact gigantesque des Coupes du Monde auxquelles ils sont évidemment sensibles. Et je crois que la dernière Coupe du Monde en Afrique du Sud a bien entendu été écoutée, entendue, perçue en Inde et que... Voilà, on voit bien que c'est la plus grande scène mondiale sportive.
Donc, mais comment vous l'expliquez, Eliane de la Tour, précisément, que ça ne se traduise pas?
Pour le moment, ça se traduit pas parce que les chaînes n'ont pas envie d'investir là-dedans. Bon, bien sûr qu'ils traduisent, ils vont donner les derniers matchs de la Coupe, les quarts de finale, peut-être même après. C'est parce que les clubs qui ont de l'argent et qui font rêver les gens, c'est encore le cricket. C'est encore le cricket. Et alors le cricket, quand vous êtes pendant une coupe du monde de cricket, moi je me suis en plus pas mal promenée à cette période-là en Inde, même jusqu'au plus petit village au-delà des plantations de thé, tout le monde est devant les matchs de cricket.
Il n'y a pas la place pour le football, quoi.
Non, il n'y a pas la place. Et puis les propriétaires de clubs de football essayent d'obliger l'État à investir. Et je pense que ça va se faire parce que il y a un grand malaise face au Japon et à la Chine, qui a d'un seul sorti des clubs, et ça c'est parce que l'État, par exemple le Japon, tout à coup, l'État a décidé d'investir d'un seul dans les clubs de foot pour pouvoir former.
D'accord.
Et il y a une chose absolument étonnante, c'est qu'en Inde, il n'y a pas d'académie. Parce qu'ils pensent qu'il suffit d'acheter des footballeurs sur le marché, et voilà, c'est fini, on n'a pas besoin de faire l'effort d'une formation. Mais ça, par exemple, ça aussi, c'est en train de changer. Ils sont en train d'essayer de monter des académies à côté des grands clubs, notamment à Bombay, et ces grosses sociétés automobiles, transports aériens, etc. Ils se rendent compte qu'il faut absolument des académies pour former les Indiens, sinon ils resteront toujours au niveau zéro où ils sont.
Merci beaucoup, Eliane de la Tour, anthropologue au CNRS et cinéaste, et d'ailleurs vous préparez là une série de 5 films, Foot Trip South, voilà, une série qui s'intéresse aux paliers qui construisent la carrière d'un joueur de haut niveau, de son plus jeune âge jusqu'à sa retraite, à travers les transferts d'un pays du sud à l'autre, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Qatar, l'Inde, la Chine, voilà, plusieurs pays dont vous parlerez dans cette série. Hey, Frédéric Bolotny, c'est vrai que ce cas indien, il est assez intéressant. Là, on apprenait il y a quelques jours cette vente de joueurs assez incroyable, vente aux enchères avec d'anciennes stars du football, Hermann Crespo, je le disais, Cannavaro, Robert Pires, etc., pour quasiment 1 million d'euros. 800 000 dollars, je crois, pas 800 000 euros. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça, ces moyens qui sont mis en place, alors là, par des sociétés privées, pas par l'État, mais voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, Frédéric Bolotny?
Ça m'inspire ce dont vient de parler votre invité précédente, hein, qui était passionnant, c'est-à-dire ces compétitions sur des formats courts, c'est encore le cas, là, la compétition dont on parle
cette semaine.
Très particulier.
C'est juste dans l'État du Bengale, hein.
Oui, c'est juste dans l'état du Bengale, mais c'est aussi certainement une façon d'occuper peut-être la saison morte dans les disciplines dominantes là-bas, que sont le cricket, on en a parlé, le hockey sur gazon ou des disciplines comme ça. Donc ça existe depuis longtemps, mais là, c'est la première fois qu'on en parle dans le monde entier. Hein, c'est-à-dire que ça montre un peu le statut du sport comme porte-voix mondiale. Là, l'initiative n'est pas étatique, on est moins une logique politique que l'initiative d'investisseurs privés. Alors, est-ce qu'ils veulent se faire de la pub? Est-ce qu'ils veulent obtenir une vraie légitimité locale? Est-ce qu'ils veulent se faire plaisir, comme on le voit? Qui ont choisi un mécanisme pour constituer les équipes qui lui fait parler, c'est-à-dire une vente aux enchères de joueurs. Personnellement, ça me pose un peu un problème de rentrer comme ça. Le mécanisme lui-même, économiquement, n'est pas si idiot que ça. Hein, c'est-à-dire le fait, lorsqu'on a une compétition de 7 semaines, on a 5 équipes, ils en voulaient 6.
Six
sur des... Non, 5.
Il y en a 5.
Ils en voulaient 6. Ils
D'accord.
en voulaient 6,
D'accord.
ils en ont trouvé que 5. C'est pas un très bon signal déjà. On va voir l'année prochaine, mais ils en ont trouvé que 5. Donc le fait d'essayer de répartir les joueurs, il doit y avoir une star internationale, une ex-star internationale par équipe, pour que la compétition soit équilibrée, ça c'est pas choquant. Mais le faire comme ça, c'est vrai que ça me laisse un peu songeur. On est quelque part pratiquement dans la communication d'une marque challenger au niveau mondial. L'Inde n'est pas une marque challenger, mais le foot indien, oui, provoque pratiquement pour faire parler d'elle. J'ai cette impression-là. Voilà.
Et du coup, peut-être que ça pourrait donner des idées au pouvoir public qui... Peut-être, on ne sait pas, à terme, se mettront à investir dans le football, on ne sait pas. Enfin,
peut-être, dans un premier temps, il y a beaucoup de marques qui essayent de gagner de la notoriété, après de la notoriété positive, donc j'espère que ça sera un peu mieux la prochaine fois.
L'Inde, le Qatar, on va parler tout à l'heure de la Chine, les nouveaux pays du foot. Petite pause avec Alexis Patovstev et sa chronique frontière. Alexis qui aujourd'hui nous parle d'ordurologie, fouille dans nos poubelles.
And my little bundle of joy. Down along the coast, I spied my little bundle of joy.
Voici une chanson de Bob Dylan de 1967, Down Along the Cove. C'est dans une crique que j'ai trouvé ma joie. En anglais, Dylan chante Bundle of Joy, un paquet de joie. Un idiome qui veut dire généralement un bébé. Effectivement, à cette époque, Dylan et sa femme viennent d'avoir leur fille. Une simple chanson d'amour paternel donc. Mais pour les spécialistes, est-ce Dylanologie ? Rien ne peut être simple chez un grand poète. Cherchons du sens caché. Et si un paquet de joie voulait dire un paquet de substances illicites ? C'est exactement ce que commençait à soupçonner à l'époque le Dylanologue Alan Jules Weberman. Déçu par le manque d'activisme politique de Dylan à partir du milieu des années 60, il s'est persuadé que Dylan est devenu héroïnomane. Et pour le prouver, il est parti, eh bien, ramasser et fouiller dans ses poubelles. Résultat de fouille, eh bien, que de banalités, des couches sales et une lettre non achevée de Dylan à Johnny Cash. « Tu es ce que tu jettes », se dit Weberman. Dylan est devenu un simple bourgeois. Nos déchets dressent un excellent portrait de nous, dirait Sherlock Holmes. Mais on peut prolonger cette réflexion aujourd'hui et dire « tu es ce que tu ramasses ».
Nadeja, Daniela et Valerio se sont portés volontaires pour organiser dans leur pays un clean-up day sous le nom de Aï Moldova. Une décision prise à la suite d'un coup de téléphone.
It was a day when Dana called me and said, oh my God, I found something in the internet.
La Moldavie a donc suivi les conseils de Rainer Nolvak, un entrepreneur high-tech estonien à l'origine de la campagne mondiale World Cleanup. Son idée est simple, envoyer des volontaires pour ramasser les ordures. Ainsi, il a déjà réussi à nettoyer sa propre patrie. 50 000 personnes se sont portées volontaires et ont ramassé 10 000 tonnes d'ordures estoniennes en une seule journée. Maintenant, l'objectif est de nettoyer le monde entier. Pendant la campagne de 2012, qui a démarré le 13 janvier, il pense à mobiliser 300 millions de volontaires autour du globe pour, au bout de 6 mois, ramasser 100 millions de tonnes d'ordures jetées illégalement. En paraphrasant Karl Marx, Nolwak dit « Volontaires du monde entier, unissez-vous ». L'ennemi aujourd'hui, ce n'est plus la bourgeoisie, c'est la pollution. Et en jugeant par les actions des années précédentes, on a l'impression que ce sont des marches. En 2010, 1/8 de la population de la Slovénie s'est réunie volontairement pour le grand nettoyage. World Cleanup est une campagne du 21e siècle. Pas de structure verticale et bureaucratique. L'idée est d'offrir à chaque participant local sa propre stratégie pour arriver au résultat final tous ensemble. Dans un pays, on va jouer la corde patriotique, dans un autre, le sentiment civil. Au Guatemala, on joue par exemple sur l'idée d'utiliser les déchets comme un matériau de construction pour les maisons low cost. En Estonie, la manière de ramasser les ordures est à l'image high-tech du pays. Les fondateurs du mouvement ont d'abord créé une application pour les smartphones qui permet de localiser et classifier n'importe quelle déchetterie sauvage prise en photo. Cela a permis à la fois de diriger assez facilement les éboueurs volontaires vers les lieux, mais également de faire rougir les autorités locales. J'attends avec impatience que cette idée formidable traverse la frontière et arrive dans les régions voisines de la Russie, où à peu près chaque forêt s'est transformée en une déchetterie sauvage. Là-bas aussi, il est grand temps de faire le nettoyage, comme chantait peu avant sa mort John Lennon. Il parlait d'un autre nettoyage, du nettoyage de son corps, des substances illicites que l'ordurologue pionnier Weberman n'a pas réussi à retrouver dans les poubelles de Bob Dylan.
Frontières, la chronique d'Alexis Patovstev qu'on peut retrouver sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez réécouter, télécharger Culture Monde sur le site. On parle aujourd'hui des nouveaux pays du foot avec Frédéric Bolotny, économiste du sport. On a parlé du Qatar, on a parlé de l'Inde. On va aller du côté de la Chine cette fois. Là, c'est un chant à la gloire du Shandong Luneng Taishan, un club chinois, Frédéric Bolotny, un club basé à Jinan, fondé en 93, entraîné par Branko Ivankovic, entraîneur croate. Hein. On retrouve tout de suite Rowan Simons, qui est journaliste anglais, qui travaille en Chine depuis une vingtaine d'années, qui est auteur d'un livre qui va paraître les jours prochains, le 23 février prochain, « Des bambous dans la surface de réparation ». C'est l'histoire d'un Anglais, c'est votre histoire, Rowan Simons, un Anglais qui crée le premier club de football amateur en Chine. Vous parlez du développement du football en Chine en général, mais c'est aussi évidemment plus globalement une description de la Chine, la société chinoise, de son histoire récente. Vous avez notamment vécu les manifestations de la place Tiananmen. Vous arrivez dans une université en Chine en 1986 pour vos études. Vous cherchez à jouer au foot, parce que vous êtes un passionné de foot. Vous faites comme ça une petite équipe avec des camarades venus un peu du monde entier, des Russes, des Australiens, des Américains, des Britanniques, des Japonais, des Néo-Zélandais. Et voilà donc votre première écrit, votre première équipe, les Grenets d'Abizi en chinois. Sauf que, vous avez personne avec qui jouer. À cette époque, en Chine en tout cas, le foot est absolument pas pratiqué, alors même que ce sport existe depuis longtemps en Chine, depuis très longtemps.
Well, yes, when we first arrived at the university,
Oui, quand nous sommes arrivés à l'université, c'était très différent de ce qu'on connaissait en Europe. En Europe, les étudiants sont libres de choisir leur rythme de travail. En Chine, c'était comme à l'école. Il y avait beaucoup de règles et de règlements qui parlaient de la présence en classe, etc. Pour nous, c'était très nouveau. Ce que j'ai trouvé épatant aussi, c'est qu'entre étudiants de tous les pays, nous parlions le chinois. Comme la Chine était encore un pays communiste, il y avait des Russes, des Roumains, des Polonais, des Nord-Coréens. L'Union soviétique et le Bloc de l'Est étaient très représentés. Mais en même temps, la Chine s'ouvrait grâce aux réformes de Deng Xiaoping. C'est pourquoi il y avait aussi beaucoup d'étudiants occidentaux, des Allemands, des Français, des Italiens, des Américains, des Brésiliens, des Africains. Avec toutes ces cultures différentes, tous ces jeunes d'une vingtaine d'années en plein Pékin, c'était les Nations Unies en miniature. C'était une époque fantastique. Le club de football fait donc partie de ces choses qui naissent tout naturellement si vous avez un groupe de jeunes gens qui partagent un intérêt commun pour le football. Très vite, nous nous sommes organisés en équipe et on a fait des matchs. Mais en Chine, le football amateur n'existait pas. Et si vous vouliez réunir des gens pour n'importe quelle activité, il vous fallait l'accord des autorités. Pour moi et pour mes coéquipiers, c'était très surprenant. On avait toujours cru que le football, ça s'organisait comme ça, ou avec une équipe, ou un club. C'était très étrange qu'il n'y ait aucun club amateur dans le pays.
Rowan Simons, j'ai été extrêmement surpris de découvrir que le football existait depuis très très longtemps en Chine.
Oui, c'est en Chine qu'a été fondé le football de l'Antiquité. D'ailleurs, il y a quelques années, la FIFA a accepté la réclamation chinoise, le Kuyu, qui a plus de 2000 ans, ressemble beaucoup au football. J'ai indiqué dans mon livre les règles de Kuyu à 6 joueurs par équipe, des règles qui ont 2000 ans. On peut toujours utiliser ces règles aujourd'hui. Elles sont très au point.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la Chine s'est à nouveau intéressée au football? Ça s'est développé grâce à la télévision, c'est ça?
Oui, la télévision était très importante au début des années 80, lorsque la Chine a commencé à s'ouvrir et que les téléspectateurs chinois ont pu s'informer sur le monde extérieur. Un des programmes les plus populaires importés en Chine, c'était le sport. Je crois qu'ils ont commencé par la Ligue italienne, la Série A, puis le football allemand avec la Bundesliga, le football anglais, la Coupe d'Angleterre et la Première Ligue. Et maintenant, on trouve du football français et espagnol. Mais dans les premières années, en regardant la Coupe d'Europe, qui est aujourd'hui la Ligue des champions, ils ont vu les grandes équipes de cette époque. Et je crois qu'avec le côté dramatique du football à la télévision, ils en sont tombés amoureux. Ces grandes équipes, centenaires, les joueurs célèbres, la quête et l'inventivité pour gagner le trophée, tous ces éléments ont vraiment capté leur attention. Ils sont tombés amoureux du football à la télévision. Malheureusement, ce n'est pas pour autant qu'ils se sont mis à jouer au football eux-mêmes.
Mais pourquoi, Rowan Simons, vous décrivez très bien cette passion pour le football européen, on le regarde beaucoup à la télévision, pourquoi est-ce que ça ne s'est pas traduit sur le terrain ?
À mon avis, la raison principale, c'est le système communiste. Vos auditeurs vont être surpris, comme ils le sont en Angleterre. Mais écoutez, voici l'explication. Si vous n'allez pas devenir footballeur professionnel, pourquoi allez-vous perdre votre temps à jouer au football ? C'est ça l'attitude en Chine. Mais si vous êtes un jeune garçon ou une jeune fille avec de bonnes dispositions pour le football, vous allez quitter votre famille et votre école pour rejoindre une école spéciale. Dans cette école, vous n'apprendrez que le sport. En Europe, on a bien remarqué que le développement des footballeurs, c'est très compliqué. On ne peut pas dire en regardant les enfants de 8 ou 10 ans lequel sera le prochain Zidane.
In his career.
Mais pour être sûr d'avoir les meilleurs joueurs, il faut les suivre dès l'âge de 6 ou 7 ans jusqu'à leurs 20 ans au moins. En Chine, un enfant de 8 ou 10 ans, s'il est repéré, va être placé à tous les coups dans une école spéciale.
Rowan Simons, en Chine, le football est un sujet politique délicat. Il y a des affaires de corruption, des affaires de matchs truqués, de paris illégaux. Alors la relation entre football et politique est toujours complexe, mais peut-être encore plus en Chine. Pourquoi ce football chinois est-il si peu éthique au fond ? Est-ce que c'est révélateur du système chinois en général ?
I think we're looking for sure in one way the system is still a problem, that it's a government-owned sport.
Dans un sens, le système est en cause car le gouvernement possède le football intégralement. Dans notre club, on essaie d'enseigner aux enfants la loyauté et le mérite. Si tu gagnes le match, c'est formidable. Mais si tu perds, tu acceptes d'avoir perdu et tu réessaies la semaine prochaine. C'est ce genre d'attitude qui manque en Chine. C'est une partie du problème, mais aussi, c'est qu'ils ne respectent pas le sport. C'est stupéfiant que la Chine ait accueilli les Jeux Olympiques et qu'ils aient gagné tant de médailles sans réellement comprendre l'éthique et la morale du sport. Si vous ne respectez pas vraiment le sport, vous lui causez du tort. Je peux vous donner un exemple. Les filles juniors du football amateur. Elles avaient 14 ou 15 ans. La Chine pouvait envoyer une équipe au championnat du monde qui se tenait en Europe. Pour eux, c'était un vrai défi. L'équipe chinoise a d'abord joué quelques matchs amicaux contre, je crois, l'équipe allemande. Les Chinoises ont largement perdu, quelque chose comme 12 à 0 ou 20 à 0. Ce qui montrait que si elles allaient en Europe pour la compétition, elles allaient perdre. Les organisateurs avaient le choix, y aller la tête haute et jouer le mieux possible, se faire des amis et être fiers même en cas de défaite, ou alors, ils pouvaient tricher. Eh bien, les organisateurs ont décidé de tricher. Ils ont pris des professionnels, l'élite de l'équipe provinciale, et ils ont fait croire qu'elles venaient d'une école, et ils les ont envoyées en Europe pour le championnat. Malheureusement pour eux, ces footballeuses jouaient si bien qu'elles ont gagné tous les matchs et le championnat du monde. Et puis bien sûr, on a découvert la vérité, qu'elles ne venaient pas d'une école, mais que c'était des professionnels. La Chine a perdu la face devant le monde entier. Mais essayons de nous mettre à la place de leur entraîneur. Si j'y vais et que je perds, je vais perdre la face. Si je triche, peut-être que je vais gagner la face. Mais je trouve ça incroyable, ça illustre bien la pression d'un système contrôlé par les autorités. Vous devez obtenir des résultats. Si vous n'y arrivez pas, la pression pour tricher est très élevée. Une autre situation impensable en France ou au Royaume-Uni, ce sont les parents qui payent l'entraîneur pour qu'il prenne leur enfant dans l'équipe. Ce système se pratique même tout en haut, car les joueurs nationaux paient l'entraîneur pour qu'il les sélectionne en équipe nationale. Dans l'équipe nationale chinoise, les joueurs ne sont pas les meilleurs joueurs du pays, mais ceux qui ont le plus d'argent. C'est vraiment effrayant.
Dernière question, est-ce que vous diriez que c'est important pour le Parti communiste chinois de se démarquer au football, de se développer, ou est-ce que finalement c'est pas très important ?
No, it's absolutely important. In the run-up to the Olympic Games in 2008, I would always ask people.
Non, c'est très important. En 2008, je demandais aux gens, est-il plus important pour vous de gagner une médaille olympique ou la Coupe du Monde de football ? Absolument tout le monde a dit la Coupe du Monde. Parce que les Jeux Olympiques, ils l'avaient déjà fait. Mais la Coupe du Monde, c'est leur ambition, c'est leur rêve. Et ils ne le réaliseront peut-être jamais. Très peu de pays gagnent la Coupe du Monde. C'est l'ambition sportive suprême en Chine. D'abord, de participer à la Coupe du Monde, ensuite, de bien jouer les matchs de la Coupe du Monde, et enfin, dans leur rêve, de gagner la Coupe du Monde. Politiquement, c'est extrêmement important. Ces derniers mois, le gouvernement a donné aux hommes d'affaires chinois la consigne d'investir dans le football et de le rendre de nouveau populaire.
Rowan Simons, auteur de ce livre Des bambous dans la surface de réparation que je vous conseille vraiment vivement, Frédéric Bolotnis. Il va paraître là le 23 février prochain aux éditions Intervalle. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce football chinois? On voit, hein, pour le parti c'est important, on pousse les chefs d'entreprise, les sociétés privées à investir dans ce secteur-là.
La communication politique par le sport, c'est pas une nouveauté quand même. Remettons-nous un peu quelques dizaines d'années en arrière avec les sportifs de l'Est, on le sait, avec tout ce que ça recouvrait en termes de dopage et tout. Bon, c'est pas une nouveauté. Donc véritablement, ce que ça m'inspire, c'est que la Chine ne peut aujourd'hui, en tant que puissance, j'allais dire émergente, mais c'est plus une puissance émergente, la Chine, mais en tant que géant mondial, ne peut aujourd'hui plus se permettre d'être absent, peut-être un peu comme l'Inde, mais si, même si la genèse est un peu différente, elle est plus privée, d'être absente du marché du sport numéro un mondial. Pas du marché, en fait. Je pense que l'objectif est moins économique, une fois encore, que politique. Rappelons que le foot est un média, permet au pays d'exister. Donc là, dans le cas de la Chine, parce que ce qui est assez intéressant quand même, et ce que ça m'inspire, c'est que en fait, deux pays, le Qatar et la Chine, avec un rapport d'habitants de 1 à 1000, ont une stratégie politique football qui, par pas mal de côtés, se rapprochent l'une de l'autre. La seule différence, c'est que la stratégie chinoise cible aussi beaucoup le marché intérieur, et le foot est très important pour quelque part fédérer un peu le marché intérieur. Je crois qu'il y a une demande chinoise qui est en train d'émerger d'ailleurs.
On l'entendait dans la bouche de Rowan Simons, hein, en Chine, il y a beaucoup de matchs truqués, de paris illégaux, etc. On le voit dans tous ces nouveaux pays du foot. Qu'est-ce qu'on a fait, Frédéric Bolotny, des valeurs fondamentales, du fair play, de l'éthique?
Alors, faut pas être donneur de leçons, hein. Tout n'est pas super propre en Europe, hein. Moi, c'est ce que ça m'inspire à un moment donné. Je rentre par l'économie déjà.
Non, mais tout n'est pas super propre nulle part. Hein.
Non. Clair. Alors après, on aime bien aussi cracher sur le football. Tout n'est pas non plus complètement négatif, mais faut pas être trop donneur de leçons. Simplement, en étant sur sur le côté économique, ce que ça m'inspire, c'est le risque d'une part de dérégulation totale. On parle beaucoup de dérégulation. Le sport est une activité qui a besoin d'être régulée. Ça, c'est une chose. Mais c'est aussi quelque part qu'on s'attaque aux fondamentaux du sport. C'est-à-dire qu'on crée des économies artificielles. On crée des équipes faites de toutes pièces, où quelque part le résultat sportif n'est plus tout à fait au cœur du business, j'allais dire. La principale source de création de valeur dans l'industrie du sport, dans le sport spectacle, c'est l'incertitude. C'est le seul scénario dont le scénario n'est pas écrit à l'avance. Et le jour où le sport aura perdu cette valeur fondamentale, je pense qu'il aura perdu une grosse partie de sa valeur économique. Donc je pense qu'il est temps de mettre véritablement des garde-fous.
Et ben voilà, l'économie du football basée sur l'incertitude. Ce sera le mot de la fin, ce sera le message de fin. Merci beaucoup Frédéric Bolotny.
Merci à vous.
D'être passé dans le studio et merci aussi à Liane Delatour, à Rowan Simons d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup à toute l'équipe, Lucille Como, Philippine Proux, Sophie Bobber, Pauline Darvet à la technique. C'était Emmanuel Morse d'Incan. À la réalisation, c'est Doria Zénine.
C'était le tour du monde en ballon, Inde, Qatar, Chine, les nouveaux pays du foot. Un numéro de Culture Monde de Florian Delorme, diffusé pour la première fois le 1er février 2012 et réalisé par Doria Zénine et Jean-Christophe Francis, avec Frédéric Bolotny et Eliane Delatour. Réécoute et téléchargement sur le site de France Culture, la page des nuits, et sur l'application Radio France.